Êtes-vous capable de me trouver les autres dans le top 5? Céline Dion, Alexandra Streliski.
Oh, ouais.
Et Soldia.
Ah ouais,
c'est hot.
Dans le top 5 des artistes québécois hot, les plus écoutés au Québec. Hey, c'est le temps d'y aller, nous autres. C'est le gars qui est plus grand que Jésus. On a parlé de lui tantôt. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres. Demain, 7h55 dans le Pit Stop. 14h avec les demoiselles dans le retour.
Salut!
Boulevard 102.1 se bat à tous les jours pour vous donner l'heure juste. Traitez l'actualité qui nous entoure avec les spécialistes qui savent de quoi ils parlent.
Oh my God, I can't believe it.
Boulevard décortique. Boulevard rassemble. Rassemble. Come together. Boulevard 102. La radio rassembleuse de Québec.
Maintenant, 100% talk.
Une propriété Leclerc Communication. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables est avec nous ce soir. Salut, Nick.
Salut, ça va bien?
Ça va pas tant bien que ça. Avec toi, on a la chance de surveiller tout l'argent qui est dépensé dans les divers paliers gouvernementaux, que ce soit municipal, provincial et fédéral. Et ce matin, je suis tombé sur un article de la presse canadienne, mon ami. Et qu'est-ce qu'on nous apprend? C'est que au nombre d'élections partielles fédérales qu'on a eues cette année, depuis le début de l'année 2026, on est rendu à 24 millions de dollars de dépensés. Et ce qu'on nous mentionne, c'est qu'en moyenne, une partielle au Canada, dans un comté, ça coûte 2 millions de dollars. Et quand ça touche un comté provincial, pour le gouvernement provincial, bien entendu, ben là, on est rendu à quoi? Mettons, on fait une moyenne, là, 700 000 $. Bon Dieu que l'argent sort par les fenêtres, puis on n'est pas capable d'isoler ces fenêtres-là.
Non, ben effectivement, il y a un coût à la démocratie, puis il y a un coût quand les gens décident de jouer un peu avec les jeux de la démocratie. On a eu toutes les histoires de transfuges, on a aussi les histoires de gens qui décident de démissionner pour finalement se faire nommer sénateur ou pour se faire nommer dans d'autres postures, dans d'autres positions. Puis en même temps, dans un sens, à la fin, les gens sont libres. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas rester en politique, ils ont le droit, dans un certain sens. Là où est-ce que c'est quand même problématique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été réélues il n'y a pas si longtemps. Là. Les élections fédérales, c'était quand même en avril 2025. Fait que le fait que certaines personnes soient déjà rendues ailleurs dans leur carrière un an plus tard, ben, ça nous fait un peu sourciller. Puis, il faut quand même le dire, il y a un coup, à peu près 7 départs conservateurs depuis le début, ben, depuis le lendemain des élections fédérales. Entendons-nous, je pense 5 sur ces 7-là sont des transfuges. Donc, il n'y a pas vraiment eu d'élection partielle qui en a résulté. Par contre, il y a eu des départs chez les libéraux. Il y en a un qui s'est ajouté il n'y a pas si longtemps, là, je pense dans les derniers jours en Ontario. Donc, ça fait quand même beaucoup de partiels. Au final, bon, il y a certaines raisons qui peuvent s'expliquer. Je pense que le plus récent, j'ai oublié complètement le nom, je suis désolé, mais le député de l'Ontario qui était sous les libéraux depuis 2015, lui, il démissionne parce qu'il y a eu un accident de la route. Il n'était plus capable de se rendre au travail. Il y avait des problèmes de santé qui résultaient de son accident de la route en fin 2025. Rendu là, on ne peut pas lui en vouloir de démissionner. Mais dans le cas d'autres personnes, c'est ça.
Nick, je suis parfaitement aligné avec tes propos. Là. Mon problème étant que quand on dit « Hey, je me présente au fédéral ou au provincial, même au municipal, je me présente pour un mandat de 4 ans », tu dois, c'est un engagement que tu prends avec ta population, tu dois prendre l'engagement d'être là pendant 4 ans. Si t'es malade, là, je pense que toi et moi, on est parfaitement d'accord avec ça. Tu peux te retirer sans aucun problème. Mais prenons le cas là, d'une députée provinciale qu'on avait ici à Québec, là, Joëlle Boutin. Elle, ce qu'on a su, c'est qu'elle s'était, pendant son... Elle n'était pas contente, elle ne pouvait pas être ministre, madame. Fait qu'elle est allée avoir une entreprise pendant qu'elle était payée par l'Assemblée nationale, puis elle a négocié un emploi. Puis une fois qu'elle a eu sa confirmation d'emploi, ben elle a démissionné de son poste de députée, puis elle est rentrée dans son nouvel emploi. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a déclenché une élection partielle à Québec, où ça nous a coûté 700 000 $ pour combler le poste qui était devenu vacant parce que madame n'était pas contente parce qu'elle s'est trouvé un autre job. Ça, à mes yeux, à moi, c'est inacceptable. C'est 700 000 $ d'impôts, d'argent des contribuables qui ont été jetés à la poubelle parce que la bonne femme a s'est trouvé un autre job parce qu'elle n'était pas contente. Moi, la santé, c'est primordial. Ta santé doit toujours passer en premier. Mais si tu t'engages pour 4 ans, jeune enfant ou pas, là, si tu t'engages pour 4 ans, tu dois le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, sans nuire à la démocratie, Nick, pour mettre en place un système qui ne nous coûterait pas 2 millions de $ par élection partielle au fédéral ou encore 700 000 $ par élection partielle au provincial? Est-ce qu'on pourrait pas, je ne sais pas moi, mettre les comtés sous tutelle, même si c'est pour 3 ans? Parce qu'on va se le dire, les députés fédéraux, ce n'est pas les gens qui se tuent à la tâche, là. Et les députés provinciaux qui n'ont pas de tâche de ministre, ce n'est pas non plus des gens qui se tuent à la tâche. Donc, ce serait quand même assez facile pour eux d'avoir un plus grand comté, donc 2 comtés, puis ils ont des adjoints, ces gens-là, bien souvent, pour avoir couvert des conférences de presse. C'est les adjoints des ministres ou encore les adjoints des députés qui sont là, qui vont faire les conférences de presse puis dire « on est très fiers de remettre un chèque de 5 000 $ ». C'est pas si compliqué que ça, là, mettre ça sous tutelle, puis ça coûterait pas une fortune comme ça nous coûte là, Nick?
Non, absolument, puis ça coûterait déjà moins cher que d'embaucher déjà un autre député, surtout au fédéral, pour quand même plus de 200 000 $ par année, donc je veux pas, j'imagine que ça coûterait moins cher de nommer comme 2 adjoints pour faire le travail à la place. Quoique à la fin de la journée, il y a quand même l'esprit de la démocratie. T'sais, les gens veulent être représentés à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale, donc c'est normal que lorsqu'une personne quitte la fonction, qu'on la laisse pas vacante trop longtemps, ne serait-ce que pour que ces personnes-là soient bel et bien représentées.
Oui, mais ça demeure, le comté demeure rouge ou le comté demeure bleu ou le comté demeure vert, là. Il est sous tutelle par un membre de son parti. Donc, il n'y a aucun changement. C'est juste que ton député, il est un peu moins présent qu'est-ce qu'il l'était, c'est tout.
Oui, à la fin, puis tu sais, disons là, franchement, il y a des députés qui sont très présents, qui sont là, qui sont élus, mais qui ne sont pas très présents à la fin de la journée. On ne le dit pas trop fort, là, pour dire, mais il existe bel et bien le phénomène des plantes vertes, tant à l'Assemblée nationale qu'à la Chambre des communes. Donc, ces personnes-là démissionnaient et étaient remplacées par des adjoints d'un autre parlementaire d'un comté voisin, possiblement qu'on ne s'en rendrait pas compte. Parce que, tu sais, comme tu l'as mentionné, il y a quand même eu des démissions, comme celle, par exemple, de Joël Boutin, qui ont fait réagir avec raison, parce que c'est des personnes qui venaient tout juste d'être réélues. Il y a aussi eu, il n'y a pas si longtemps, au niveau conservateur à Ottawa, Larry Brock qui a démissionné de son côté, ou qui annonce sa démission pour septembre, sans faire qu'elle conforme de diffamation ou autre. Il y a apparemment des intérêts professionnels au niveau de devenir juge ou procureur.
Bref, voilà.
On se doute que c'est pour se recycler dans un autre environnement professionnel. Rendu là, un peu comme je l'ai déjà dit aussi pour Pierre Fitzgibbon qui a démissionné en 2024, juste avant de déposer son projet de loi 69, puis pendant que le scandale Nordvolt commençait à éclater. Lui, il disait qu'il avait sorti de la politique pour trouver l'amour. Bon, je ne sais pas s'il l'a trouvé, je souhaite grand bien malgré tout, mais je pense qu'il devrait avoir aussi un système de pénalité pour les élus qui ne remplissent pas, comment dire, qui quittent leur fonction avant la fin du mandat. Surtout, au début, il y avait déjà eu la question des allocations de transition qui ont été éliminées pour ceux qui démissionnent en cours de route. Ça, c'est quand même une bonne chose, mais je pense que ce n'est pas une assez forte tape sur les doigts pour vraiment faire comprendre à ces gens-là que peut-être que vous devriez finir votre mandat. Ceci étant dit, ce que je viens de dire est un peu paradoxal par rapport à une position de la FCC qu'on a depuis plusieurs années, parce que nous, on est en faveur des lois de rappel qui existent dans d'autres provinces, notamment en Alberta, où est-ce que la population peut s'organiser, faire une pétition, être assez nombreuse dans un comté pour la faire signer puis dire, écoutez, nous, on n'aime pas ce député-là, on trouve qu'on est mal représenté, puis voici la liste des signataires, on la dépose au directeur des élections, soit dans ce cas-ci de l'Alberta ou du Québec, et on déclenche littéralement une élection partielle parce qu'on met sur la sellette notre élu qu'on considère qu'il n'a pas un bon travail.
Nick, c'est un autre 2 millions qui passe, c'est un autre 600 000 qui passe si c'est au provincial. La Fédération canadienne des contribuables est supposée travailler pour nous autres, sacrifice!
Oui, mais en même temps, je veux dire, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. On s'entend 600-700 000 $ pour une élection partielle. Puis on en a eu beaucoup au Québec dans les dernières années, il faut se dire.
Ouais.
Sauf que il y a quand même aussi un prix important à payer quand on maintient en place des politiciens incompétents. Puis ce prix-là, parfois, il peut même être plus élevé que la facture d'une élection partielle. Je peux donner un exemple comme ça. Tu sais, ton
Tu peux me donner un exemple sur 125 députés de l'Assemblée nationale? Il y en a combien qui sont incompétents?
Je donnerais pas de chiffres, mais comment dire, c'est beaucoup. Mais tu sais, on a un député en tête, toi et moi, qu'on adore énormément, c'est un certain Éric Kerr,
ouais.
Qui était, tu sais, que lui, il a quand même trahi ses promesses d'engagement politique. Tu sais, il disait que lui, il n'avait pas de première pelletée de terre pour le troisième lien, il démissionnerait dans son premier mandat.
C'est quelqu'un qui a fait preuve. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'un manque de jugement. D'ailleurs, il avait menti sur son CV, il s'est fait prendre. Il a emprunté de l'argent à un échevin de son comté, qui est le maire d'une ville dans le secteur de Québec, Émile Loranger, parce que M. Kerr voulait s'acheter une nouvelle maison avec sa conjointe. Il a tenté d'emprunter de l'argent à un maire qui était dans sa circonscription. C'est un gars qui, visiblement, entre les deux oreilles, pas toujours le plus grand des jugements, là.
Ben, c'est ce qui est le plus ironique là-dedans, c'est qu'Éric Kerr, j'avais googlé ça il n'y a pas si longtemps, en 2011, il a déposé un projet de loi de révocation, la fameuse loi de rappel à laquelle je fais référence, parce que les gens peuvent se débarrasser de leur élu quand il ne fait pas un travail adéquat ou quand il ne livre tout simplement pas la marchandise ou il trahit ses engagements. Ben, en 2011, quand il était à l'opposition, Éric Kerr avait déposé un projet de loi là-dessus où il disait qu'essentiellement, les gens devraient pouvoir se débarrasser de leurs élus à n'importe quel moment à travers un processus démocratique dans leur circonscription. C'est sûr qu'à la fin, comme je dis, ça augmente drastiquement la possibilité qu'il y ait plus d'élections partielles, sauf que, bon, ça ouvre la porte. Mais est-ce qu'en pratique, ça se réalise? Ben, dans les autres provinces, dans l'Ouest, où est-ce que ce mécanisme-là existe, on n'a pas vu d'explosion du nombre d'élections partielles. Mais on a vu quand même l'explosion du nombre de pétitions dans les circonscriptions. Ça garde les gens motivés parce que dans plusieurs comtés, même par exemple dans celui de Daniel Smith en Alberta, il y a toujours une certaine mobilisation pour se débarrasser des élus en poste. Bien sûr, les pétitions ont quand même un certain threshold, comment dire, ben, comme une limite à atteindre qui est importante, qui fait en sorte que c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il faut quand même plusieurs milliers de signatures et valides par-dessus le marché. Donc voilà, à la fin, c'est ça. Il y a comme un paradoxe. On veut pas payer pour des élections partielles. On trouve que ça coûte cher de payer, surtout pour des élus qui sont là pour faire leur job jusqu'au bout. Mais en contrepartie, maintenir des élus en poste qui ne livrent pas la marchandise, qui représentent mal leurs constituants, il y a un coût à ça qui va au-delà du coût financier pour les élections partielles.
Ouais. Donc, 700 000 pour les élections partielles au Québec, je trouve ça trop cher. 2 millions de dollars pour élections partielles au fédéral, je trouve ça trop cher. Ce que moi, de mon côté, je propose, parce que je suis un rebelle dans la vie. Moi, j'aime ça, les gens rebelles. J'aime ça, les anticonformistes. Il n'y a rien de pire que des maudits conformistes puis des larbins qui disent « Ben, le système est comme ça, on ne change pas. » Imagine-toi si les suffragettes dans le temps avaient dit « Ben, les femmes n'ont pas le droit de vote, on ne fera pas notre combat. » À quel point on aurait raté notre chance pour atteindre l'égalité homme-femme. J'aime ça, les gens rebelles, puis je fais partie de ces gangs-là. Fait que j'essaie tout le temps de regarder l'ordre établi, puis je me dis « Tiens, on pourrait-tu améliorer des choses? » Fait que ce que je propose, c'est de mettre le comté où le député décide de sacrer son camp, à tort ou à raison, là, décide de sacrer son camp, de le mettre sous tutelle. Après ça, tout comme la Fédération canadienne des contribuables, ce qui est intéressant, c'est on pourrait-tu donner une pénalité au député qui quitte ça peut, parce qu'il s'est engagé pour 4 ans? Est-ce que c'est une pénalité financière? Ben, je pense que oui. Est-ce que le parti qui a embauché ce député-là, qui a accepté que cette candidature-là soit la sienne, puis qui en fasse un député, est-ce que le parti pourrait déplier un certain pourcentage de la facture de l'élection partielle dans la province ou encore au Canada même? Est-ce que le parti pourrait déplier un montant? C'est quelque chose qui pourrait être intéressant, ça?
Ben, oui, ça pourrait être intéressant. Puis aussi, ça ouvre la porte à une discussion encore plus large sur, mettons, le sort des transfuges. Parce qu'il y a eu des gens qui ont quitté en cours de route parce qu'ils n'ont pas voulu finir leur mandat pour toutes les raisons du monde. Certaines recevables, d'autres non. Mais il y a des gens qui ont carrément quitté, comment dire, qui ont été élus sous des bannières conservatrices, qui sont rendus libérales. Et vous avez des gens qui ont été élus, par exemple, sous des bannières caquistes, qui sont rendus, qui ont été indépendants ou qui sont rendus conservateurs au Québec. Par exemple, on a eu des jeux de chaises musicales qui déplaisent beaucoup aussi aux gens qui ont voté pour ça. T'sais, je veux dire, je prends le meilleur exemple, c'est en Ontario, je pense dans le comté de Sarnia, c'est Mme Marilyn Gladue, qui a même été déjà candidate pour le leadership du Parti conservateur du Canada et qui, honnêtement, quand on regarde ses discours des dernières années, ne donne pas du tout l'impression d'être une libérale ou une libérale en devenir. Et puis soudainement, dans un comté qui est fortement conservateur, décide de flipper puis devenir libérale. Ça nous ramène à la question d'avoir justement des lois de rappel, des lois de révocation, parce que quand tu as un transfuge comme ça qui trahit ses constituants, il devrait avoir une pénalité qui est carrément démocratique, faire face à un genre de tribunal populaire qui serait le résultat d'une élection partielle. Mais à la fin de la journée, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on en veut plus d'élections partielles ou on en veut moins?
Ben, l'idéal, c'est d'en avoir moins, surtout si ça continue de nous coûter cher. T'sais. Puis moi, pour ce qui est des transferts, je t'aurais tout simplement pas le droit, parce que ça, c'est un délit de démocratie. Tu es en train de faire... Tu transfères la balance du pouvoir. Le peuple a dit, nous, ce qu'on veut, c'est un gouvernement qui est minoritaire. Puis toi, en tant que simple député d'arrière-ban, tu dis, ben, je vais transférer l'autre bord, ce qui fait en sorte qu'on va devenir un gouvernement fort, puis on peut être là encore 3 ans. Je trouve ça scandaleux. Moi, je mettrais des peines de prison, mais je sais que je suis un peu extrémiste dans mes affaires, là.
Ben, le pire, c'est qu'on y pense, on ne peut pas toujours le dire tout haut, mais à la fin, c'est vrai que les gens ont le droit. Les gens ont totalement raison de s'insurger par rapport à l'état de la démocratie. T'sais, à la fin de la journée, puis, je veux dire, on a quand même un système qui fonctionne. On n'est pas non plus dans un pays, on n'est pas une république de bananes. Là, parce que, on n'est pas là pantoute, quoique des fois, on voit des petits symptômes, puis on est comme bon, ça va peut-être pas dans la bonne direction. Puis la réalité, c'est que, tu sais, quand on regarde les élections en général, là, je pense qu'il y a des élections de 2025, le taux de participation, c'est à peu près 69 %. C'est-à-dire qu'il y a quand même une personne sur trois au Canada qui n'a pas été votée au cours des dernières élections. J'ai tendance à voir les élections partielles comme étant une alternative pour que les gens dans des circonscriptions données s'engagent un peu plus dans le débat politique. Le problème, c'est que le taux de participation des élections partielles n'est pas très élevé non plus. Même qui est plus bas généralement que celui des élections générales. Fait que, comment est-ce qu'on fait pour donner le goût aux gens de s'engager politiquement? Ben, généralement, tu sais, comme quand je regarde par exemple les États-Unis ou la France, c'est des pays où ils sont constamment en élection. Ils ont constamment une élection pour, que ce soit pour le Congrès, le Sénat, les juges, les shérifs, à la limite, la mairie, ils ont des référendums aussi. Il y a quand même beaucoup d'ouverture à ça, alors qu'au Québec et au Canada, on a l'impression que notre participation citoyenne se limite à une fois aux 4 ans. Puis en dehors de ça, c'est se pointer au conseil municipal quand t'as pas 150 affaires à faire dans la journée avant de t'y rendre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour augmenter ça? Je pense que les élections partielles sont un moyen justement de ramener les gens en leur disant, écoutez, là, votre député, il a quitté, il a décidé de ne pas finir son mandat, ou votre député a décidé de changer de bord, ou votre député, ben, comment dire, il a démissionné, fait qu'il faut trouver quelqu'un d'autre. Et ça permet quand même de garder une forme comment dire, d'engagement politique qui est très nécessaire pour la démocratie. Maintenant que c'est dit, la facture, comment on fait pour la diminuer? Moi, je suis quand même, on peut revenir au point de départ de comment, qu'est-ce qu'on disait, là, des pénalités financières, que ce soit pour le député ou pour le parti politique, ce serait pas de refus. Mais en même temps, comment est-ce qu'on fait pour rendre ça plus économique? Je pense que les élections partielles, justement, c'est peut-être d'avoir ça à des dates spécifiques. C'est-à-dire que, tu sais, comment il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas qui a démissionné là, à l'Assemblée nationale, mais comme éventuellement, tu ne peux plus faire d'élection partielle parce que c'est rendu à 6 mois des élections. Tu sais, ça servira, tu sais, ça sert à rien de faire une élection partielle quand tu es à 6 mois des élections générales. Fait qu'il devrait y avoir des règles où est-ce que, regarde, là, si par exemple, là, le député démissionne à comme 1 an des élections générales, ben, on ne le remplace pas. T'sais, je donne un exemple comme ça permettrait de limiter le nombre d'élections partielles qui sont inutiles, considérant qu'on retourne aux urnes quelques mois plus tard, là.
Exact, exact. La Fédération canadienne des contribuables, définis-moi ce que c'est que votre mission. Est-ce que c'est une mission qui évolue au fil du temps? Est-ce que c'est après année, vous regardez votre mission, puis on pourrait-tu enlever des trucs, on pourrait-tu rajouter des trucs? Comment ça fonctionne, la Fédération canadienne des contribuables?
Ben, on est un organisme à but non lucratif. Notre mission, c'est on veut moins d'impôts, on veut moins de gaspillage, on veut un gouvernement plus responsable. On existe depuis 36 ans. On a été fondé initialement par 2 organisations de la société civile albertaine et saskatchewanaise, dans un combat contre la TPS à l'époque. Donc, si vous vous rappelez d'un Canada sans TPS, vous avez probablement mal au dos aujourd'hui. Mais ça rajeunit personne. Mais il n'en reste que. À la fin, c'est un combat qui est perpétuel. La mission, comment dire, les campagnes qu'on pousse évoluent certainement. La mission, elle est la même que celle qu'on avait il y a 36 ans. Le gouvernement, il nous taxe trop. Le gouvernement gaspille trop. Puis le gouvernement, il manque de transparence puis d'imputabilité. Malheureusement, ça n'a pas changé en 36 ans. Du moins, il y a eu une amélioration à certains endroits. On va va se le dire, là, il y a quand même, il y a pas eu, il y a pas que du mauvais, mais à la fin, c'est un combat qui est perpétuel parce qu'on n'est jamais, comment dire, à l'abri de la possibilité d'avoir un gouvernement qui va manquer de respect envers ses contribuables, qui va essayer d'en prendre plus dans leur poche, qui va essayer aussi, qui va, comment dire, laisser aller plusieurs scandales de gaspillage de fonds publics. Eh bien, les 8 dernières années de la CAQ, tant qu'à moi, sont une belle démonstration qu'on a besoin d'organisations de chiens de garde comme nous. Je ne vais pas dire, je ne vais pas prendre tout, comment dire, tout le spotlight. Clairement qu'il y a d'autres organisations dans la société civile qui font un travail qui ne vont pas avec la même mission, mais qui ont le même souci de la santé de la démocratie et des finances publiques, ainsi que du portefeuille des contribuables. Mais je dirais que notre organisation, où est-ce qu'on se démarque, c'est par notre longévité et le fait qu'effectivement, on a un combat qui est mené de longue haleine depuis un bon moment. On est partout. On est dans toutes les provinces canadiennes. Puis on est aussi très souvent dans à peu près toutes les plateformes médiatiques, ou du moins autant que possible. Il y a du monde, des fois, qui dit « Ah, oh, on ne voit pas assez souvent là ou là, mais tu sais, je suis comme une personne. » Pour ceux qui ne le savent pas au Québec. Donc, si j'avais la possibilité de me cloner, ça ferait longtemps que ça serait fait. Mais malheureusement, pour se contenter de moi pour l'instant. Donc, c'est d'être présent tant dans les médias traditionnels qu'alternatifs, tant dans la population, auprès des gens, dans des consultations, ou sinon, même dans des comités parlementaires pour défendre la voix des contribuables de la veuve et de l'orphelin.
Non, ce que j'aime, c'est que vous êtes très impliqué, même dans votre communauté. Je sais que tu as été dans le secteur de Québec à rencontrer une gang de jeunes. C'est Génération Ambition de mémoire, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous étiez peut-être une cinquantaine. Fait que tu t'es déplacé parce que tu jugeais que 50 personnes, c'est 50 personnes que tu peux influencer de la bonne façon pour des gens qui veulent en savoir plus puis qui veulent faire une différence dans leur avenir, là.
Oui, puis c'est pas juste 50 personnes, c'est 50 jeunes. C'est ça qui est le plus important pour moi parce que à la fin, on s'entend. On est quand même dans on est au Québec. On connaît la situation démographique du Québec. Les jeunes sont rares. Non, ils sont pas si rares, mais les jeunes, comment dire, ils n'ont jamais été aussi intéressés par la politique, contrairement à ce que bien du monde pense. On dirait que le monde pense que la jeunesse est déconnectée parce que, en fait, c'est un phénomène générationnel. À chaque fois chaque génération regarde ça en arrière. Puis se dit, ah, ben, ils sont pas bons. Ou, tu sais, ah, c'est que, y a pas d'avenir pour eux autres, c'est foutu. Ben, alors que c'est totalement faux. Je pense que la génération, moi, je sais pas, je suis né dans les années 90, donc je suis un Z, je suis un millénial, je sais pas exactement comment me catégoriser. Mais je me considère encore jeune par rapport au Québec, mais vieux par rapport à ceux qui étaient présents dimanche dernier. Fait que c'est ça, Génération Ambition, ils ont fait un sommet des ambitions 2026 pour faire un peu. En fait, il y avait trois panélistes. Il y avait entre autres Étienne-Alexandre Beauregard de l'Institut Cardis qui a écrit trois très, très bons livres et qui est très présent là, sur plusieurs tribunes, notamment à Cube ou 99.5. Il y a aussi Gabriel Hardy qui est député de Montmorency-Charlevoix à la Chambre des communes, député conservateur depuis juste avril 2025. Mais honnêtement, il était excellent. En fait, la présentation qu'il a faite était quand même somme toute non partisane, parce que le but, ultimement, c'est de parler à tout le monde.
Ben, tu sais, quand je parlais des députés qui l'ont peut-être un peu trop facile au Québec, ne sont pas très surveillés à l'Assemblée nationale concernant leur emploi. Même chose pour ce qui est du fédéral. Dans le cas de Gabriel Hardy, si vous le suivez sur Internet, vous voyez que les gens qui ont voté pour lui en ont pour leur argent. C'est une bête de travail. Il fait très, très souvent mal paraître le Parti libéral du Canada parce qu'il sort des histoires que le Parti libéral ne voulait pas qu'il sorte. C'est un député qui travaille extrêmement fort. Puis c'est la plus belle, pour moi, là, au Parti conservateur du Canada, c'est la plus belle surprise que j'ai eue en 10 ans. C'est-à-dire un gars qui est un homme d'affaires. D'ailleurs, je m'entraîne à son gym. Qui est un homme d'affaires, mais qui décide de s'impliquer dans sa communauté pour réellement changer les choses, puis qui va travailler, puis que ça c'est palpable, son travail. C'est la plus belle des surprises que j'ai eues des dernières années pour le gouvernement.
Oui, puis je sais qu'il est apprécié à la Chambre des communes par ses collègues, pas juste au Parti conservateur, même les autres formations politiques apprécient beaucoup son travail.
Je te dirais que dans l'équipe de Mark Carney, d'après moi, au Parti de Noël, c'est le visage de Gabriel Hardy qui est sur le jeu, qui est sur le jeu de d'or. Je suis pas mal persuadé. Ouais.
Non, effectivement, lui, il est peut-être pas dans leur cœur, mais les autres au Québec ont peut-être un peu plus de comment dire, pas d'animosité, mais de complicité un peu plus fraternelle à son égard. Puis en fait, j'encourage n'importe qui, tu sais, qui s'intéresse un peu à comment la politique se fait à la Chambre des communes, à s'intéresser à lui. Pas pour, tu sais, à la fin, oublier qu'il est conservateur, intéressez-vous plus à la formule. Parce qu'à la fin, ce que lui fait de très bien, puis ce qu'il nous a expliqué durant la conférence à Génération Ambition, c'est comment démocratiser les institutions, comment justement rejoindre la population, leur donner le goût à l'engagement, puis leur essentiellement, tout ça vient avec le fait qu'il faut que les gens comprennent comment ça se passe à la Chambre des communes. Ouais. Lui, c'est ce qu'il fait. Il ne fait pas juste des clips pour se filmer pendant qu'il est à la période de questions. Il va un peu plus loin que ça. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeunes qui l'écoutent sur TikTok, sur Instagram. Lui-même, il n'est pas très friendly de ces applications-là, mais il se retrouve là directement. Et ça s'avère que ça fait en sorte que tu sais, il est passé dans une école secondaire il n'y a pas longtemps. Et comme moi, il a remarqué à quel point les jeunes de 15-16 ans, c'est du monde qui sont très allumés, qui sont très informés, malgré tout ce qu'on peut penser. Puis donc, au final, ça me ramène à la raison de cette conférence-là. C'est justement de s'assurer que la prochaine génération de Québécois soit mieux outillée pour comprendre ces institutions démocratiques, pour comprendre les finances publiques, pour aussi comprendre un peu le legs qui leur a été laissé malheureusement. Pourquoi est-ce que, quand ils vont regarder les budgets des prochaines années, pourquoi il y a une ligne qui est écrite service sur la dette, puis ça bouffe 10 milliards de dollars par année? C'est quoi ça? Ben ça, c'est le résultat des mauvaises politiques. Ça, c'est le résultat des déficits, de l'endettement chronique de l'État. Et ça, c'est ce qu'on laisse aux générations futures, c'est-à-dire une marge de manœuvre de moins en moins importante dans leurs finances publiques pour prendre des décisions collectives qui les regardent. Donc, vaut mieux outiller la jeune génération de contribuables dès maintenant pour que des bonnes politiques publiques voient le jour plus tard ou que des mauvaises politiques publiques soient abolies plus tard. Donc, dans tous les cas, c'est ça. Moi, que ce soit 50 personnes, moi, honnêtement, je me déplacerai au Saguenay pour rencontrer 10 personnes. À la fin, je considère qu'il n'y a aucun contribuable québécois doit être laissé derrière. Tout le monde doit être engagé dans la discussion démocratique. Puis, parce qu'à la fin, c'est comme ça qu'on donne pas juste confiance dans les institutions, mais qu'on dépolarise. Moi, s'il y a bien une chose que j'aime bien, c'est d'avoir une discussion avec quelqu'un avec qui je suis parfaitement en désaccord. Puis en plus, durant cet événement-là, il y a des gens qui sont venus me poser des questions, beaucoup qui étaient très intéressés par notre travail et qui ont apprécié. Puis il y a du monde qui me posait des questions un peu sur justement les outils ou les solutions que je mettais de l'avant par rapport à une meilleure gestion des finances publiques. Puis on n'était vraiment pas d'accord sur la formule. Mais on était quand même d'accord sur le pourquoi c'était nécessaire quand même qu'il y ait un changement. Donc, au final, comme je le dis à la Fédération, on parle à des gens de gauche, on parle à des gens de droite, mais on parle à monsieur et madame tout le monde, puis on ne fait aucune discrimination.
Mais les jeunes générations ont changé comparativement à nous. En tout cas, à moi, quand j'étais jeune, tu étais un peu plus jeune que moi, Nick. Moi, je me souviens qu'au cégep, là, les jeunes étaient très à gauche. On était encore dans le peace and love, puis on partage l'argent avec tout le monde. On était quasiment communistes. Mais quand tu commences à payer de l'impôt, tu te rends compte que tabarouette, être communiste, c'est complètement débile. On va gérer notre portefeuille à nous un peu plus à droite. Puis je pense que c'est la même chose pour ce qui est des politiciens. T'sais. La plupart des politiciens vont gérer leur propre portefeuille à droite, mais une fois qu'ils sont au pouvoir et qu'ils ont accès à votre argent, ben, ils vont gérer à gauche, ce qui est une catastrophe là, avec l'endettement qu'on a là actuellement. Par contre, ce que je perçois chez les jeunes d'aujourd'hui, tu me diras peut-être que la fin justifie les moyens parce qu'ils voient le prix exorbitant des maisons, l'accès à une propriété est quasiment... C'est même plus accessible, c'est rendu un rêve quasiment pour eux autres. Eux autres commencent à s'intéresser un peu plus à la politique et à la droite économique. Je pense que cette génération-là, dans 10 ans, dans 20 ans, quand ils vont prendre place dans notre société puis qu'ils vont s'impliquer en politique, on va avoir des jours meilleurs là, au niveau de l'endettement. Là.
Oui, honnêtement, il y a vraiment de l'espoir pour les prochaines générations. Puis ça, je pense que c'est le message qu'il faut qu'on maintienne parce qu'on laisse souvent entendre que la prochaine génération va souffrir, ça va être la fin du monde, l'apocalypse nucléaire, la guerre, les changements climatiques, name it. Alors qu'à la fin de la journée, les meilleures solutions, les meilleures perspectives sont effectivement vers l'avenir. Puis je pense que justement, comme tu le mentionnes, la prochaine génération risque d'être un peu plus à droite qu'à gauche. Ceci étant dit, est-ce que c'est nécessairement parce qu'ils sont conservateurs ou libertariens ou autres? Non, c'est plus parce que avec raison, ils ont constaté, en fait, les échecs du gouvernement des dernières années. L'échec d'une promesse, en fait, qui était très importante, qui est martelée par plusieurs, d'ailleurs, c'est celle de pouvoir devenir propriétaire sur sa propre terre. Ça, c'est une promesse qui a été brisée, une promesse générationnelle à travers tout le Canada, parce que la génération des plus jeunes, aujourd'hui, ont perdu espoir de devenir un jour propriétaire au Canada, puis de pouvoir réellement, tu sais, dire, OK, moi, j'ai acquis cette place-là, c'est chez nous, j'ai travaillé pour l'avoir, et un jour, ce sera un actif à la limite ou ce sera quelque chose que je vais transmettre à la prochaine génération, à mon fils ou à ma fille. Mais là, aujourd'hui, ces gens-là se disent, écoute, je suis rendu avec une maîtrise, puis j'ai de la difficulté à payer mon appartement. Ça, c'est malheureusement, c'est la situation actuelle. C'est aussi ces gens-là se disent, clairement que le gouvernement a échoué. Mais le truc, c'est qu'on dit que la prochaine génération est plus à droite qu'à gauche. C'est à moitié vrai. Parce qu'elle est un peu plus à droite, mais la partie à gauche va être aussi beaucoup plus engagée. Parce qu'on voit un retour aussi des idées de gauche qui ont pourtant été déjà éprouvées dans les dernières décennies, notamment l'idée d'avoir des épiceries publiques. Cette idée qui fait son retour. T'sais, on s'entend, cette idée-là,
Des
c'est juste qu'elle est
épiceries
rentrée dans un
publiques
paquet.
Ouais. Avec des employés super bien rémunérés, avec des fonds de pension qui seront syndiqués de l'État puis qui vont pouvoir faire des ils vont pouvoir faire des grèves quand ils veulent, tu sais.
Ben, c'est ça, mais tu sais, pourquoi les gens se tournent à droite d'un bord? C'est
La
parce qu'ils
connerie.
réalisent qu'on travaille comme des fous avec un gouvernement qui gaspille notre argent comme
Ouais.
des fous, puis on n'a pas les moyens de s'acheter une maison ou d'aller à l'épicerie. Mais l'affaire, c'est que la même génération, un peu plus à gauche, voit les mêmes problèmes, puis se disent, alors, j'ai plus les moyens de faire mon épicerie, ça serait peut-être mieux que ce soit le gouvernement qui charge des prêts à l'épicerie parce que je ne fais plus confiance en cette institution. Malheureusement, sans comprendre comment le prix de l'épicerie, les prêts à l'épicerie fonctionnent. Ceci étant dit, malheureusement, il y a comme un retour des mauvaises idées. Alors, ils ont aussi l'idée, par exemple, de taxer les ultra-riches. Entendons-nous, les riches au Québec payent déjà leur juste part, mais il y a des gens qui vont faire du kilométrage là-dessus en disant, ben non, il faut les taxer davantage, c'est à cause d'eux s'il y a autant de problèmes. C'est à cause d'eux s'il y a une crise d'accès au logement, ou crise de la portabilité, ou crise de l'inflation. Alors que la réalité, c'est que le gouvernement est très souvent responsable, ne serait-ce que de ces problématiques-là, et a tout simplement échoué en fait à amener des solutions. Ou plutôt, plus souvent qu'autrement, la solution ultimement, c'est pas que le gouvernement amène une solution, c'est que le gouvernement se retire de l'équation, c'est-à-dire qu'il taxe moins, qu'il réglemente moins, qu'il laisse davantage de liberté aux acheteurs, aux consommateurs, aux contribuables. Mais malheureusement, on n'est pas dans cette dynamique-là présentement. C'est ce qui fait en sorte que la prochaine génération, partie comme c'est présentement, elle risque plus polarisée. Oui, on dit plus à droite, mais elle risque. C'est comment dire, la partie à droite de la prochaine génération va être franchement à droite et la partie à gauche va être encore plus franchement à gauche. C'est un peu comme ce qu'on voit aux États-Unis d'ailleurs, ou en France. Je veux dire, oui, la jeunesse, est comme, on voit qu'elle est de plus en plus engagée politiquement sur ces deux axes-là, mais avec des écarts au niveau du débat et des échanges qui font un peu peur, pareil, parce qu'à la fin, il faut conserver cette notion
Okay.
de débat démocratique.
Mais je veux pas faire mon pied à poilievre, là, mais quand il parle de gros bon sens, là, quand est-ce que le gros bon sens va diriger le Québec? Quand est-ce que le gros bon sens va diriger le Canada? Parce que si on se déchire entre nous, puis on fait pas un échange d'idées, puis on n'accepte pas des fois que ça se peut que ce soit l'autre côté qui ait raison, puis qu'on fasse pas un genre de mix entre la gauche et la droite, puis qu'on se retrouve au centre. Je suis un peu plus de droite économique, personnellement, là, mais pour le reste, des fois, je suis un peu plus au centre. Pourquoi on ne s'unit pas pour un avenir meilleur, que ce soit pour nous, mais aussi pour nos enfants? Là, c'est mon bagage de préjugés, hein, tu sais, que j'ai mon petit sac de préjugés qui est ici. Je te le montre, là, parce que nous autres, tu as la chance de me voir. C'est mon bagage de préjugés. Mon grand-père, là, il pensait à ce qui se passait là, dans le ici, maintenant. Il n'y avait pas une christie de cent dans ses poches, puis il y avait 13, 14, 15, 16 bouches à nourrir. Puis il pensait dans le ici, maintenant. Il pensait pas aux générations futures. Là, nous autres, on fait partie de la gang qui commence à se dire, OK, qu'est-ce qui va rester à nos enfants? Qu'est-ce qui va rester à nos arrière-petits-enfants? Et c'est les questions qu'il faut se poser. À un moment donné, il va falloir s'unir et faire un échange d'idées, mais se déchirer constamment, comme en France, aux États-Unis, on n'avance pas. C'est pas une société qui progresse quand on se déchire comme ça, là.
Non, les sociétés clivantes ou polarisées sont probablement celles où est-ce qu'il y a le plus de risques de violence. D'ailleurs, la violence politique existe dans ces deux pays-là. C'est le résultat inévitable. Je pense que le seul autre pays le plus polarisé au monde, c'est soit le Brésil ou l'Argentine, où est-ce que la violence politique est également courante, des assassinats de personnalités, de candidats politiques, ça arrive dans ces pays-là. Donc, c'est la dernière des choses qu'on a besoin au Canada. Puis, tu sais, pour venir à la question du gros bon sens, puis ça, comment dire? Pour moi, c'est la principale raison de ces clivages, cette polarisation. En 2018, on a quand même un premier ministre qui a été élu, qui s'appelle François Legault, qui était notre politicien du gros bon sens, qui était le politicien de la réconciliation, qui était aussi le politicien qui disait, écoutez, là, on va mettre de côté les chicanes référendaires de on est-tu pour la souveraineté, on est-tu pour rester en Canada? Voici la solution, c'est la troisième voie. Donc, c'était la promesse de mettre fin aux chicanes. Donc, ultimement, On s'entend que le Québec a connu ces phases de polarisation importantes durant notamment les référendums, mais aussi on peut retourner dans les années 70 et avant, où est-ce que ça a brassé pas mal au Québec. Peut-être, t'sais, on a quand même eu même la crise d'octobre, je veux dire, à la fin. Bon, ça fait quand même une cinquantaine d'années, mais il n'en reste qu'on n'est pas à l'abri de tels événements. Et François Legault, en 2018, c'était la promesse du gros bon sens qui arrivait au pouvoir. Puis, ben, au final, le legs de François Legault, je vais être honnête, je suis capable de donner des bons points sur ce qui a été fait pour les contribuables, ce qui a été fait pour la laïcité, ses tentatives de défendre l'identité québécoise avec la loi 96 ou avec le projet de constitution qui n'a pas vu le jour. Mais dans l'ensemble, le legs ultime, c'est quand même une dette beaucoup plus importante. C'est quand même des finances publiques qui sont dans le rouge. Lui, il se vantait de les avoir laissées dans l'ordre dans le dernier budget. C'est pas tout à fait le cas. On a quand même eu la première décote du Québec depuis que le Canadien a gagné la Coupe Stanley dans les années 90. On a eu quand même une augmentation drastique de la taille de la fonction publique qui a augmenté à un rythme deux fois plus élevé que la population, ou le coût de la fonction publique qui a augmenté à un rythme deux fois plus élevé que l'inflation. Donc, clairement qu'au niveau d'une meilleure gestion, d'une gestion du gros bon sens, on a échoué là-dessus. Ça, c'est, j'ai même pas encore commencé à parler de toutes les histoires de subventions aux entreprises comme la filière batterie, ou de parler, par exemple, des augmentations de salaire pour les élus qui ont clairement ouvert la porte à des revendications salariales pour les syndicats. Bref, tout ça étant dit, la promesse du gros bon sens a été un peu brisée par la CAQ. Puis ça fait en, puis tu sais, maintenant, je pense que Mme Fréchette fait beaucoup de travail pour redonner confiance en ce brand-là. J'ai de bons joueurs là-dessus.
En fait,
Mais à la fin,
le brand, c'est plus la CAQ, là. Le brand, c'est rendu Christine Fréchette parce qu'ils veulent faire oublier la CAQ, là. C'est rendu équipe Christine Fréchette. Ne l'oublie pas, Nicolas.
Oui, exactement. Donc, tu sais, ils travaillent très fort sur le brand. Ça fait partie des communications. T'sais, comment dire, don't blame the player, blame the game. Dans ce cas-ci, c'est pas mal ça. Mais il n'en reste que, comment dire, à la fin, je peux comprendre pourquoi il y a des gens. T'sais, je regardais les sondages récemment. Je pense qu'un Québécois sur deux ne savent pas pour qui aller voter aux prochaines élections. Ça a l'air de rien, là, mais c'est quand même dans quoi? On va voter dans 7 semaines environ. Le 5 octobre prochain, les élections vont être déclenchées le 28 août, donc c'est dans 2 semaines et demie. Je veux dire, à la fin, ça s'en vient assez rapidement. Puis les gens ne savent pas pour qui voter. Je dis pourquoi. Parce que pour moi, c'est assez simple. C'est que la préoccupation première des Québécois n'a pas été vraiment écoutée. Et on regardait les sondages qui sont sortis en juin dernier. La préoccupation première, pour une première fois depuis de très nombreuses années, c'est le coût de la vie. C'est plus la santé. Ben, la santé, quand même, dans les priorités, parce que c'est le champ de compétences que chaque gouvernement se garoche comme une patate chaude, là. Mais pour le reste, je veux dire, c'est plus l'immigration, la laïcité ou même l'environnement qui fait partie des priorités. Non, c'est le coût de la vie. Et pour l'instant, je veux dire, oui, Mme Fréchette, elle a fait quand même quelques petites mesures ici et là, comme le remboursement de la taxe de bienvenue, l'abolition de la TVQ sur certains produits à l'épicerie. Puis bientôt en septembre, on va sauver 50 $ sur nos frais d'immatriculation, ne serait-ce que pour un an. Bon, c'est des petites mesures comme ça, mais clairement que c'est insuffisant pour vraiment répondre aux attentes et aux préoccupations premières des Québécois. Puis en contrepartie, ben, les autres partis, que ce soit le Parti québécois ou le Parti conservateur ou le Parti libéral, même Québec solidaire, n'ont pas encore dévoilé leur jeu. Fait que c'est sûr et certain que les gens ne sont pas très intéressés à une discussion politique ou est-ce qu'ils n'ont pas l'impression que leurs préoccupations sont entendues. Donc, on va souhaiter que ça finisse par avoir lieu, cette discussion-là, puis surtout que les plateformes finissent par être dévoilées, parce que j'ai comme l'impression qu'on va avoir un pas si haut taux de participation que ça aux élections. J'espère me tromper, mais j'ai comme l'impression que le taux de participation cette année va être moins élevé qu'en 2022 ou en 2018. Puis ça, c'est jamais bon signe pour une démocratie, surtout quand on est supposé être dans un moment de changement. Entendons-nous, ça sent la fin de régime. Ça ne veut pas dire que la CAQ va nécessairement disparaître pour autant, mais clairement qu'il y a comme une volonté de changement, mais les gens ne savent pas trop vers quel changement s'orienter, à part peut-être de vouloir un parti québécois à la place de la CAQ au pouvoir.
Ouais, il y a un sondage qui est sorti ce matin dans les journaux de Québécois, sondage léger, qui place actuellement le Parti québécois comme le parti qui remporterait les élections. Ce ne serait pas un gouvernement majoritaire, par contre, là, si on en croit les sondeurs, ce serait un gouvernement du Parti québécois minoritaire. Je voulais te poser en fait deux questions avant de passer à la pause, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. qu'est-ce qui fait en sorte que la majorité de la population souhaite qu'on nous lâche un peu au niveau de l'impôt, que ce soit municipal, provincial ou fédéral? Tu sais, mis à part les 3-4 débiles là, qui sont interviewés par TVA ou RDI là, dans des Vox Pop là, le lundi à 9h10 à la sortie du centre d'achat, là, la plupart des gens veulent des baisses d'impôts. Mais quand tu parles à un politicien et il dit « Est-ce que vous seriez prêt à baisser les impôts? » C'est comme si tu leur faisais manger une cuillère de wasabi. Là. Tu sais, c'est comme « Une baisse d'impôts! » Est-ce que c'est vrai que quand on baisse les impôts, il faut automatiquement toucher aux services qu'on donne à la population, que ce soit au municipal, provincial ou fédéral? Quand je parle du municipal, je parle bien sûr des taxes commerciales ou résidentielles. Là.
Non, effectivement, parce que le monde pense que les impôts, ça ne sert qu'à 3 ou 4 choses. Ça sert juste à la santé, l'éducation, les routes, puis la sécurité publique. Puis après ça, comme si les impôts n'étaient pas distribués pour quoi que ce soit d'autre. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, je vais me corriger, j'ai dit tantôt, effectivement, la préoccupation première, c'est le coût de la vie, du moins, c'est selon un sondage Somme, la presse. Donc, en juin, là, le léger, il y a des résultats un peu différents, mais je vois que le coût de la vie est encore dans le top, en deuxième position très confortable. Donc, on est quand même encore dans le vif du sujet. Mais pour venir à la question des baisses d'impôts et des politiciens. Récemment, là, on a eu le Parti conservateur du Québec qui a dit qu'il allait baisser les impôts. Ça faisait partie de leurs engagements électoraux. On ne sait pas trop combien, on ne sait pas c'est quoi le cadre financier de leurs promesses. On a hâte de voir ça. On sait aussi que le Parti québécois va en promettre. Eux autres, ils veulent, dans leurs promesses, ou du moins dans leur approche, ils veulent remplacer les subventions aux entreprises par des baisses d'impôts aux entreprises, qui seraient des baisses d'impôts historiques. Donc, du moins, c'est ce qu'ils présument. On a hâte de voir ce qui va être promis. Puis, on a on a la CAQ de leur côté qui disent carrément qu'ils ne veulent rien savoir des baisses d'impôts, constatent que ça pourrait donner. La possibilité que les gens votent pour le PQ ou pour les conservateurs, ça mènerait vers le chaos. Et ben, à cause de ces promesses-là, tant pour le référendum que des baisses d'impôts qui mettraient les finances publiques encore plus en rouge, selon eux. Parce que selon eux, si vous baissez les impôts, c'est comme si vous redonniez de l'argent aux gens. Donc, c'est comme si on vidait les coffres du gouvernement. Alors,
sacrilège.
Vous gardez votre argent.
Oui.
C'est ça, vous gardez. Quand on baisse les impôts, c'est que vous gardez votre argent. Et en contrepartie, ben, le gouvernement, de son côté, son travail, c'est de suivre la logique comptable. S'il y a moins de revenus, il doit donc moins dépenser. Ou sinon, on peut présumer qu'il peut augmenter ses revenus ailleurs. On va toujours dire, par exemple, on peut développer des ressources naturelles, on peut exploiter davantage ça, on peut aller chercher des royautés là-dessus, mais malheureusement, au Québec, on a quand même bloqué la possibilité de développer des ressources qui sont très profitables, notamment le gaz, le pétrole et l'uranium. Mais il n'en reste que... Donc, l'autre option, c'est effectivement de réduire les dépenses. Puis, on peut couper dans les dépenses sans même s'attaquer aux services publics. Puis je pense que le meilleur exemple que je peux donner, c'est à quel point non seulement la taille de la fonction publique a augmenté dans les dernières années. T'es sous la CAQ, on a ajouté 108 000 nouveaux effectifs à temps complet dans la machine gouvernementale. C'est une augmentation de pas loin de 23% de la taille des effectifs dans la fonction publique, la fonction publique totale, donc parapublique et les ministères. Et c'est donc, comme je disais tantôt, ça a augmenté rapidement à un rythme 2 fois plus élevé que la population du Québec sur la même période. Puis quand on regarde comment ça a été distribué, on va voir, par exemple, le ministère de l'Environnement. Quand la CAQ arrive au pouvoir en 2018, il y a environ 1700, 1800 personnes qui y travaillent. Présentement, on est à peu près aux alentours de 4000. Tu sais, le ministère de l'Environnement, c'est pas tout à fait le ministère que tu appelles pour avoir des services. Tu penses quoi que ma déclaration d'impôt, c'est pas le ministère de l'Environnement qui t'appelle, c'est Revenu Québec. Tu sais, quand tu as besoin d'un soin quelconque, tu vas à l'hôpital, tu appelles le 811, tu vas à la clinique, peu importe, tu n'appelles pas le ministère de l'Environnement. C'est un ministère qui a plus une tendance coercitive, ben pas coercitive, mais qui te contrôle, de réglementation, de vérification, mais pas de services. On pourrait revenir à d'autres types de ministères qui ont connu une bonne croissance de leurs effectifs et de leur rémunération les dernières années. Le ministère des Relations internationales, de la francophonie, de tous ces autres ministères, en fait, que certains vont les défendre pour l'aspect symbolique. Le Québec doit rayonner sur le monde, le Québec doit avoir des relations internationales, le Québec doit être présent ailleurs, mais en contrepartie, est-ce que d'augmenter drastiquement leurs effectifs, ça donne plus de services à vous et moi? Non. Mais à la fin, on paye pour pareil. Donc, c'est ça qu'il faut considérer, c'est qu'on peut effectivement couper dans ce genre de structure-là. On peut aussi couper dans les subventions aux entreprises. Dans les dernières années, là, le gouvernement de la CAQ nous a démontré une chose. Les coffres vraiment du gouvernement sont sans fond quand c'est le temps de mettre de l'argent dans les entreprises. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, dans les derniers conseils de ministre de Mme Fréchette, on a donné quoi, 268 millions de dollars à plusieurs entreprises dans les derniers décrets de son gouvernement. Comme quoi, est-ce que même quand on sait que les finances publiques sont en rouge, même quand on sait qu'on est allé au-delà de notre marge de manœuvre que nous avait donné notre ministre des Finances, justement, pour faire des cadeaux électoraux, ben on continue pareil à donner plus d'argent aux entreprises. Ben ça, c'est une pratique qui doit prendre fin. Puis si on arrêtait les subventions aux entreprises, puis qu'on remplaçait ces subventions-là par des baisses d'impôts aux entreprises, on pourrait dynamiser notre économie davantage. On pourrait sauver de l'argent au niveau de ce gaspillage, de ces paris qui ont été faits à outrance par le gouvernement sortant. Et en plus, ben, en dynamisant notre économie, on augmente notre productivité. Ça fait en sorte qu'on va chercher des revenus supplémentaires
Aider
les coffres du gouvernement.
Moi, entièrement d'accord avec ça. Aider les PME québécoises qui sont littéralement le poumon du Québec, là, les PME québécoises. Mm-hmm. Mais on en a déjà jasé, toi et moi. Puis si tu reprends mon exemple, là, je te charge 10 %, OK? On a souvent parlé dans le passé de paradis fiscaux, comme quoi c'était bien terrible. Bien, sachez que si les paradis fiscaux existent, c'est qu'il existe des enfers fiscaux. Puis au Canada, on a un enfer de loi. Et en particulier au Québec, là. Et on a un enfer de lois, beaucoup qui servent absolument à rien puis qui retardent le processus. Puis on a un enfer fiscal, principalement au Québec, où on est les citoyens les plus imposés en Amérique du Nord. Ça fait grandement peur aux entreprises internationales, ce qui fait en sorte que quand ils arrivent ici, ils disent « Tabarouette, l'enfer fiscal est incroyable, les lois sont incroyables ». Avez-vous un petit quelque chose pour nous attirer? Fait que là, ben, comme le gouvernement, il veut se vanter d'avoir attiré des grosses entreprises internationales qui procurent des belles jobs, ben, ils vont se baisser les culottes pour être sûr et certain de se faire enferouaper bien comme faut, puis avoir donne-en des coups. Nous autres, on en a de l'argent à vous donner. Si on était si attirant, si on n'était pas un enfer fiscal, si on n'était pas un enfer de lois qui servent absolument à rien, les entreprises, d'ailleurs, pour venir s'installer ici, ils nous prieraient de les accepter, là.
Absolument. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on subventionne autant? C'est parce que les entreprises ne viendraient pas s'il n'y avait pas effectivement quelque chose pour les attirer au bout de la canne à pêche. D'un autre côté, un actif important qu'on a au Québec pour attirer les entreprises, puis ça va au-delà de la fiscalité ou même de l'aspect réglementaire, c'est la question de l'énergie. Parce qu'à la fin, si on peut s'en vanter, on a parmi non seulement de l'énergie propre, mais de l'énergie parmi les moins coûteuses en Amérique. Et ça nous met dans une position stratégique très intéressante. Sauf que d'avoir de l'énergie aussi, abordable, ben, je veux dire, c'est bon quand on en a en grande quantité. Mais quand un gouvernement, qui à travers notamment son ancien super ministre, a distribué des blocs d'énergie à autant d'entreprises en faisant fi des réserves d'énergie, en faisant fi de notre capacité de production, ça nous met dans une situation un peu embarrassante parce que le Québec est comme engagé dans une course contre la montre pour augmenter drastiquement sa production d'énergie au cours des prochaines années. Puis ben ça vient avec une facture qui va être refilée inévitablement à vous et moi à travers des tarifs plus élevés plus tard. Parce que juste de même, là, au cours des 10 prochaines années, Hydro-Québec, son projet, c'est de doubler sa capacité de production énergétique. C'est une facture qu'on estime aux alentours de 184 milliards sur 10 ans. Ça, c'est sûr que ça va se refléter sur notre facture à quelque part. Ça reste nécessaire dans une certaine mesure. Mais il n'en reste que c'est... On est un peu pris entre l'arbre et l'écorce parce que si le Québec perd cette capacité-là à avoir de l'énergie abordable en grande quantité pour justement rester compétitif et attirer des entreprises qui veulent réduire leur facture énergétique, quitte à avoir une facture fiscale plus importante, ben, si on perd ça, on perd un pouvoir d'attractivité assez important.
Exact.
C'est ça. C'est malheureux. En fait, il faut le dire franchement, ça doit faire partie des discussions que les partis politiques devraient avoir d'ici cet automne, parce que c'est des problématiques qui vont être importantes pour la prochaine génération.
Exact. Avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables dans le podcast, il nous reste encore quelques minutes pour ceux qui veulent en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables. C'est contribuable avec un S.ca, contribuable avec un S.ca. Il nous reste quelques minutes après la pause. Restez là, les amis.
Marceau, le soir. Le segment que personne ne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
Une semaine qu'on a recommencé. Bon retour de vacances à toi.
Denis, tu nous parles de quoi cet après-midi?
J'essaye de sous-entendre que mon show est préparé habituellement.
Je te trouvais audacieux avec ta question, Marceau. Ouais.
Bon. Écoute, on a 9 entrevues de bouquets sur les principaux sujets de l'actualité.
Oui, oui. Donc, Jeff, fais-tu votre booking à vous autres aussi?
Ah, c'est une nouvelle tâche pour l'automne.
Hey. Il est passé d'une minivan scrap à une Mini Cooper. Ouais. Son attitude a changé un peu. Et tu sais ce qu'on dit là, sur les Mini Cooper? C'est un peu comme les trottinettes. C'est le fun. Jusqu'à temps que tu te fasses pogner par tes chums.
Le jugement, hein? L'important, là, c'est d'être heureux.
Oui. Et voilà!
Le Pit Stop de Boulevard 102.1, lundi au jeudi, 7h55.
Pendant l'été, souvent, ça nous tente pas de travailler. Mais chez Can-Am, c'est pas pareil. Parce que travailler chez Can-Am, c'est pas juste une job. Postule sur canamembauche.com.
Le 13 août, vivez une journée 100% hockey avec l'expérience Pro-Am Sun Life. Une journée entièrement au profit des enfants d'ici. Dès 15h, profitez du tailgate à la place Jean-Béliveau. À 17h, assistez au match des légendes. Puis, à 19h, place aux vedettes de la LNH au centre Vidéotron. Billets en vente dès maintenant sur Ticketmaster.
Pis, votre essai du nouveau Jeep Cherokee hybride?
Ben là, avec jusqu'à 800 km d'autonomie, je suis loin d'avoir fait le tour.
Je vais reprendre les clés.
Puis je peux pas partir avant d'avoir vérifié le 6,3 litres au 100.
Les clés...
J'ai même pas eu le temps de mettre à l'épreuve le 4x4 légendaire.
Venez-vous de remettre les clés dans votre poche?
Hein?
OK. Encore 10 minutes.
Yeah!
Venez-vous aussi faire l'essai du tout nouveau Jeep Cherokee hybride 2026. En ce moment, obtenez-le à partir de seulement $42,390. Détails sur Jeep.ca.
La série estivale de poker du Grand Royal Wolinak est lancée. Du 25 juillet au 22 août, tentez votre chance au tournoi qualificatif du samedi et visez votre part des $50,000 garantis. Une nouvelle chance chaque semaine. Détails au GrandRoyalWolinak.com.
Monique?
Oui?
Fais la brage proche des fils?
Oui?
Il y a des pros qui vont venir la couper aujourd'hui.
Non.
Oh, allô?
Bravo, Monsieur Dubé.
Hein?
OK, go!
C'est qui, ça?
Hydro-Québec, monsieur.
Rester à plus de 3 mètres des fils électriques pour rester en vie, ça mérite des félicitations.
Boulevard 102.1.
Vous carburez au défi et vous voulez que vos efforts paient vraiment? Week-end 91.9 et Boulevard 102.1 recherchent un représentant pour faire grandir sa force de vente. Ici, vous vendez plus qu'un produit. Vous proposez une plateforme forte avec un réel impact pour vos clients et pour votre carrière. Leclerc Communication est le radiodiffuseur numéro 1 à Québec. Ici, il y a de l'espace pour performer, bâtir, convaincre et gagner. Votre mission? Développer des relations solides et accompagner vos clients jusqu'à la mise en onde de vos publicités. Prêt à relever le défi? Postulez dès maintenant au carrière.fm.
Obtenez un coupon de 20 cents le litre dans l'application Couche-Tard à l'achat de 2 caisses participantes de 18 ou 20 canettes. Profitez-en chez Couche-Tard pour économiser sur votre prochain plein. 18 ans et plus, consommez de façon responsable.
Le Festibière de Québec, présenté par Roma, c'est bien plus qu'un festival de bière. Du 13 au 16 août, au quai de l'espace 400e, dégustez bière, cocktails, spiritueux, cidre et produits sans alcool. Spectacle de la grand-messe, Jay Scott et Gab Bouchard. Procurez-vous votre verre officiel.
C'est pas pour rien qu'Abba, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abba, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. Abbaextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. Abba, une solution définitive.
Envie d'un week-end gourmand, festif et rempli de découvertes? Du 20 au 23 août, ne manquez pas les Fêtes gourmandes de Neuville, le festival le plus gourmand de l'été. Plus de 60 exposants vous attendent avec dégustation, cuisine de rue, ateliers, démonstrations culinaires et le populaire combat des chefs. Et chaque soir, place à la fête avec Classe moyenne, les charmants salauds et Best of. Cet été, passez goûter Neuville. Procurez-vous vos billets dès maintenant au fgdm.ca.
Allô, c'est PA Méthode. Si tu veux retrouver ton toi intérieur, là, ben oublie le yoga. Y a rien pour te faire sentir mieux que de changer d'auto.
C'est le temps de changer.
Oh que oui, c'est le temps de changer. Durant la grande liquidation chez 5 fois Nissan et Beauport Nissan, profitez de rabais de fin de saison jusqu'à 13 500 $. Rogue, Kicks, Sentra, Ariya. Venez en faire l'essai durant la grande liquidation Nissan chez Beauport Nissan et 5 fois Nissan.
Cineas Health,
là où chaque témoignage fait la différence.
Salut les femmes, je suis Claire, 52 ans. La ménopause peut parfois être un vrai défi, mais je crois qu'il est temps de transformer cette étape en opportunité. Participe à une étude chez Syneos Health, un séjour de 17 nuits et une indemnité allant jusqu'à 12 370 $. Rejoins-nous et ensemble, faisons la différence au gocineos.com.
Syneos Health. Pour un futur en santé.
La rentrée n'a pas besoin d'être compliquée. Chez Scolar, laissez-nous le plaisir de vous aider. Facile d'accès, grand stationnement sur Pierre-Bertrand. Nous sommes la référence des écoles depuis plus de 30 ans. Scolar.
Partageons le goût d'apprendre.
Les Misérables, la comédie musicale, arrive à Québec dans une méga-production à couper le souffle. Laissez-vous emporter par l'une des plus grandes histoires jamais racontées, portée par des chansons inoubliables et plus de 50 artistes sur scène. Maintenant à l'affiche au Grand Théâtre de Québec. Détails et billets à lesmiselacomediemusicale.com.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien... Vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Passons, mon ami. Avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, dans le podcast de Marceau Soir, on parle de tous les sujets qui touchent l'argent des contribuables. Avec le rapport qu'on peut lire sur contribuables avec un S.ca, on apprend que les députés de l'Assemblée nationale du Québec sont les cinquièmes mieux payés en Amérique du Nord parmi les élus infranationaux, donc non fédéral. Sur quoi on s'est basé pour évaluer ces bons salaires-là qu'on donne au Québec? C'est-tu en raison de leur grande performance?
Non, c'est carrément juste en raison de leur salaire. En fait, on a fait un survol des rémunérations de tous les élus infranationaux. Donc, comme tu l'as dit, qui ne sont pas des députés fédérales ou des représentants à la Chambre des congrès américaines. Donc, on a pris les 60 juridictions nord-américaines et on a pris les salaires pour 2025. Et c'est là qu'on est arrivé à la conclusion que le Québec, effectivement, est en cinquième position. En première position, il y a New York qui triomphe en haut. On a la Californie, la Pennsylvanie, l'Ontario, qui a eu un rattrapage récemment. Ils ont voté aux autres aussi une belle augmentation de salaire. Et puis finalement, le Québec, qui est en cinquième position avec un salaire quand même pour un député backbencher. Présentement, on est rendu l'année dernière, c'est 142 000. On est présentement à 147 000 $. À titre d'information comme ça, c'est environ 76 000 $ de plus que le salaire moyen des Québécois qui est empoché présentement par les élus à l'Assemblée nationale. On se rappelle de leur ajustement salarial qui se sont votés en 2023. Comme je disais tantôt, ça a ouvert la porte à des négociations salariales beaucoup plus profitables pour les syndicats qui donnent la fonction publique que ce qui était prévu. Parce que, veux pas, ils ont vu les politiciens s'augmenter leur salaire et se sont dit, bien, écoutez, ça nous envoie le message que les coffres sont pleins. Donc, nous aussi, on a le droit à notre juste part. Cette gourmandise-là des élus a eu un impact sur l'ensemble des finances publiques au final. C'est assez surprenant, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Effectivement, les élus les mieux payés en Amérique du Nord, parmi les mieux payés en Amérique du Nord, mais c'est pas pour les résultats, comment dire, les plus satisfaisants, entendons-nous. On pourrait parler de finances publiques, mais on peut aussi parler de l'état de l'économie québécoise. On peut aussi la comparer aux autres juridictions nord-américaines. Si on comparait le Québec en termes de PIB ou de par habitant ou de croissance économique avec les autres juridictions, on se démarque pas nécessairement de la manière la plus positive. Je ne veux pas faire pas de Québec bashing ici. Je pense qu'on a du gros potentiel, on a une forte économie, mais pas du tout aussi forte que celle à laquelle on est comparé très souvent en Amérique du Nord. Et donc, comment ça se fait que nos élus sont parmi les mieux rémunérés alors qu'ils ne donnent pas nécessairement les meilleurs résultats? Ça, c'est quand même une question qui mérite d'être considérée, surtout. Il faut le dire qu'à chaque 1er avril maintenant, le salaire des élus à l'Assemblée nationale augmente sans qu'aucun vote ait lieu. Donc, ça, c'est comme rendu pareil qu'à la Chambre des communes. Donc, leur salaire va franchir la barre des 150 000 $ l'année dernière. Et je tiens à rappeler que ça, c'est le salaire des backbenchers. On parlait des plantes vertes tantôt. Une plante verte, fait 150 000 $ par année. Maintenant, ça, il y a des politiciens qui sont impliqués, qui sont présents dans les comités parlementaires, notamment. Ils ont droit à des primes en fonction de ça. Ils ont droit aussi à des primes s'ils sont whip ou s'ils sont leader parlementaire ou s'ils sont chef de l'opposition ou même ministre. Donc, le salaire, il augmente en fonction de toutes ces additions-là. Puis au final, on paye très cher nos élus. Puis il faut dire que là, on avait 125 élus à l'Assemblée nationale. On est donc l'Assemblée législative avec le plus grand nombre d'élus de tout le Canada. Et on a trouvé le moyen d'en ajouter deux autres sièges parce qu'on disait qu'on n'avait pas assez. Je tiens à rappeler qu'en Ontario, il y a 124 sièges pour à peu près 15 millions d'habitants, ouais. Alors qu'au Québec, on a 9 millions de personnes avec 127 députés. Donc, trois de plus qu'en Ontario. Donc, c'est quand même assez surprenant, mais oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Est-ce que c'est en raison du fardeau fiscal du Québec qu'on gagne peut-être un peu plus cher à l'Assemblée nationale que certains députés dans d'autres provinces? Donc, on se dit, tiens, on va gagner plus cher ici, puis une fois nos impôts payés au Québec puis au Canada, ben il va nous rester à peu près la même chose qui reste dans les poches des autres députés ailleurs?
Ah, ce serait pas une mauvaise... J'ai pas pensé. C'est vrai que ça pourrait être une des raisons. C'est-à-dire, eux autres, même, ils réalisent à quel point ils payent beaucoup d'impôts, fait qu'ils ont augmenté leur salaire en conséquence, ce qui serait pas stupide. Alors, en même temps, il faut dire aussi que c'est un petit tour de passe-passe pour la pension, parce qu'il faut pas oublier que la pension est calculée en fonction du salaire des élus. Ah. Donc, c'est à peu près, ils cotisent, je pense, 4 % par année jusqu'à concurrence là, de... j'essaie de me rappeler du chiffre, là, mais c'est jusqu'à, je pense, 75 % du salaire auquel ils ont droit, qu'ils peuvent cumuler. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent à 65 ans, ils peuvent empocher jusqu'à 75 % du salaire de député. Donc, plus le salaire est élevé, bien sûr, ça, c'est à condition de rester quand même plusieurs années en politique, pas seulement un ou deux mandats. Un mandat, vous n'avez pas le droit à la pension de toute manière. Mais il n'en reste que oui, je pense que les ajustements sont comme d'une part, on en profite un peu davantage parce que le salaire augmente. D'un autre part, on en profite un